voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Commercialiser des semences libres et reproductibles, c'est le combat mené par l'association Cocopelli installée en Ariège. Cette émission La Voix du Kaizen vous emmène à la rencontre d'Ananda, un homme intègre et inspirant. Ananda, s'il te plaît, avant de comprendre l'histoire de la semence, présente-nous le lieu où l'on se trouve.
Ah, une dimension visuelle, c'est complexe. On est entouré de forêts, quasiment, aux trois quarts. Enfin non, même on est entouré de forêts, tu vois, on est au Mas d'Azil en Ariège, donc dans l'extrême sud de la France, collé à l'Espagne. Et c'est là qu'on s'est implanté en fait en 2013, que l'association Cocopelli s'est implantée pour se rapprocher d'un cadre vraiment naturel, qui soit vraiment à l'image de Cocopelli, et c'est pour ça qu'on a choisi l'Ariège.
Alors Cocopelli, tout bon jardinier a déjà entendu parler de cette association, mais peut-être pas tout bon français. Alors qu'est-ce que c'est que Cocopelli ?
Bon, alors Cocopelli, c'est une association loi 1901 qui a été créée par Dominique en 99 pour répondre en fait à la demande entre guillemets des variétés libres et reproductibles ou des variétés anciennes, mais c'est un peu un défaut de langage, variétés anciennes, on y reviendra peut-être. À la demande de ces variétés d'être protégées en fait de l'agro-industrie et de l'industrialisation de l'agriculture qui sévit depuis les années 1800 en fait depuis un bout de temps, mais là on voit qu'on arrive quand même à un aboutissement un peu de cette industrialisation, et donc Cocopelli est là pour défendre ces variétés en fait.
Les variétés, de quoi tu parles ?
Ah, les variétés, alors en fait les variétés c'est une diversité au sein d'une espèce. Une espèce ça va être par exemple une tomate pour être vraiment simple, et au sein des tomates tu vas avoir un certain nombre de variétés, donc comme la Green Zebra, la tomate des Andes ou la Black Iceberg, Noire de Crimée qui est hyper connue. Quand Cocopelli a démarré, donc il y a une vingtaine d'années, sur les étals, on voyait quasiment que des tomates rouges rondes qu'on peut lancer contre les murs. Donc c'est l'aboutissement des hybrides F1. Donc ça, on pourra peut-être y revenir, c'est un peu technique. Et grâce à des associations comme Cocopelli, de plus en plus sur les marchés, que ce soit en bio mais même en conventionnel, maintenant on va retrouver une diversité de couleurs, de goûts, de textures et tout ça au sein des espèces. Donc des carottes, des tomates, des piments, des poivrons, etc.
Est-ce que tu peux me dresser un petit peu le côté historique de ce qui s'est passé au niveau de la semence après-guerre ? Pourquoi est-ce qu'on est venu à devoir créer des associations comme Cocopelli pour pouvoir libérer ces semences ou ces variétés dont tu parles ?
C'est long comme histoire. C'est long et assez complexe et assez dur d'être synthétique, mais je vais essayer quand même. En fait, on part d'un constat assez simple que les civilisations occidentales, elles sont quand même relativement basé sur le profit. C'est des civilisations mercantiles, et ça depuis quand même quelques siècles maintenant. Et la nature a un grand défaut face à civilisations mercantiles, c'est qu'elle se reproduit gratuitement. Et ça, c'est vraiment un blasphème total. Tu t'imagines un vendeur de godasses avec ses godasses qui se reproduisent gratuitement sur l'étagère du consommateur, ce serait évidemment un calvaire pour le marchand de chaussures. Et les agro-industriels, en fait, ont fait le même constat pour les semences, et ils ont dû trouver des solutions, en fait, à ce problème-là. Et donc, il y a différentes solutions qui sont venues. Alors, il y a les hybrides F1, qui sont un genre de campagne de stérilisation des plantes par des techniques d'hybridation. Donc, on va vendre, en fait, aux agriculteurs, aux jardiniers, aux maraîchers, un concept de variété hyper productive, résistante aux maladies, etc. Mais le prix à payer, c'est une non-reproductibilité des variétés. Ou alors, elles se reproduisent, mais elles sont dégénérescentes. Donc, une tomate noire va donner un peu n'importe quoi l'année suivante, empêchant donc les jardiniers, les maraîchers ou les agriculteurs de reproduire leur propre semence.
Alors que traditionnellement, de tout temps, les paysans ont toujours récupéré leurs semences et les ont reproduites.
Alors voilà, c'est hyper récent parce que, évidemment, à l'échelle de l'agriculture maintenant, elle a été redatée, je crois, à moins 45 000 ans avec les recherches récentes qui ont été faites en Amazonie. Donc en gros, oui, les techniques modernes industrielles, elles sont arrivées il y a quelques secondes, quoi, à l'échelle de l'agriculture. Donc oui, de tout temps, les premiers sélectionneurs, j'allais y venir, étaient évidemment les agriculteurs eux-mêmes. Et en fait, la technique vraiment des industriels, ça a été de justement séparer la production de la reproduction. Ça veut dire que la reproduction des plantes, en fait, ont été données. La reproduction a été donnée comme tâche à des chercheurs, à des industriels, à des labos, mais des gens n'ont pas de terrain, en fait, qui vont créer des concepts, en fait, en gros. Enfin, moi, je vois ça plus comme ça. Ils créent du rêve, comme un vendeur de chaussures, en fait, qui crée un besoin. Mais c'est plus du tout les agriculteurs, donc les réels acteurs de terrain, qui se chargent de reproduire les graines et d'orienter, en fait, la sélection pour répondre aux besoins de l'humanité ou aux besoins de l'agriculture. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on idéalise beaucoup tout. Et à partir du moment où il y a agriculture, il y a modification de toute façon, il y a sélection, il y a orientation de la nature. On est d'accord, ça, depuis qu'on n'est plus chasseur-cueilleur, on oriente la nature, que ce soit la permaculture, que ce soit l'agroécologie ou l'agriculture totalement conventionnelle. À partir du moment où on plante une bêche, on fait une modification de notre environnement naturel. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, variété ancienne, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où... la tomate originelle, c'est une toute petite tomate cerise des Andes qui est quasiment immangeable. On s'en sert par contre pour faire les tomates indigo qui sont en vogue actuellement, qui ont beaucoup d'antioxydants. Du coup, quand on parle d'une tomate ancienne, de quoi on parle réellement, en fait? C'est quoi l'échelle de temps, en fait, pour pouvoir dire c'est une tomate ancienne? Donc, en fait, le terme ancien, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que de tout temps, en fait, depuis que l'agriculture existe, on oriente la sélection, on oriente la nature pour répondre à nos besoins, ce qui n'est pas un mal en soi. Parce que c'est pareil, on parle toujours d'hybride, donc on va entendre... quand on parle d'hybride, tout de suite on pense aux hybrides F1, à la stérilité, etc. Alors qu'un hybride, en fait, en soi, c'est juste un croisement de deux variétés. Ce qui n'est absolument pas mal. Parce qu'on peut avoir une variété qui va être plus adaptée à un climat de montagne, par exemple, et une autre variété qui va être très productive ou avoir un goût assez prononcé qu'on aime bien. Bah, croiser ces deux variétés, ça va pouvoir permettre de cultiver cette tomate avec un bon goût en altitude. Il n'y a aucun mal à ça. Le mal, c'est de créer des variétés qui soient captives, en fait, qui vont créer un marché captif et qui vont forcer les agriculteurs, les maraîchers, les jardiniers à revenir vers l'industriel à chaque fois. Et encore une fois, ça... c'est que la pointe de l'iceberg, parce que en fait le réel objectif des agro-industriels en créant des variétés hybrides, c'est surtout de pouvoir vendre la panoplie de produits de synthèse qui vont avec. Alors là, je fais un raccourci, je vais revenir à mon fil de tout à l'heure. Je fais des gros raccourcis, en fait, en vrai, hein, parce qu'il y a plein d'éléments historiques, mais ça prendra vraiment du temps. Mais si on saute directement à après-guerre, c'est à ce moment-là vraiment que l'industrie s'est emparée de l'agriculture avec le magnifique objectif, la main sur le cœur, de renourrir, en fait, de relancer l'agriculture européenne après les deux guerres qui ont été un désastre, parce qu'évidemment, ceux qui sont morts dans les tranchées, après les Noirs et les Arabes, c'est les agriculteurs. Donc ça a décimé une bonne partie de la population agricole, et depuis, l'exode rural fait qu'on perd encore aujourd'hui 200 fermes et quelques tous les jours, je crois, un truc comme ça. Donc c'est à ce moment-là que les industriels ont récupéré l'agriculture. Et comment ils ont récupéré l'agriculture? En fait, en transformant leur industrie. Parce que c'était une industrie de guerre, donc ils fabriquaient des bombes et des gaz de combat. Et en fait, bah, les gaz de combat ont été de manière assez simple recyclés en agriculture, en pesticides, donc en gaz de combat. En fait, ils n'ont pas été recyclés, ça reste des gaz de combat. Et les usines de nitrate et d'ammoniac de synthèse, etc., qui servaient à fabriquer les bombes, ont été recyclées en industrie de l'engrais, en fait, tout simplement.
Donc quand on nous dit que c'est ceux qui font les guerres, qui nourrissent l'humanité et la planète, on n'a pas tout à fait tort.
Non, on a même carrément raison, parce qu'en fait, mais de toute façon, on regarde, tu vas dans le centre de la France, dans la Beauce, dans la Brie, et regarde les champs, c'est des champs de bataille. Très clairement, on a tout éradiqué. Dès qu'on voit un insecte, on sort le tracteur, on pulvérise. Dès qu'on voit une mauvaise herbe, on pulvérise les haies. Il reste plus de taupes, il reste plus de hérissons, il reste plus rien. C'est un champ de bataille. Donc on mène une agriculture de guerre, réellement. Et d'ailleurs, c'est pas rare d'avoir un agriculteur et même des jardiniers qui disent « Cette année, j'ai fait la guerre en limace ou j'ai fait la guerre en mauvaise herbe. » Et c'est vraiment, en fait, on n'est pas du tout en coévolution avec la nature. On lutte vraiment contre elle. Mais c'est très culturel, en fait, parce que il y a que l'espèce humaine pour penser qu'elle ne fait pas partie de la nature. Parce que quand on lutte contre la nature, on lutte contre nous-mêmes, parce qu'on est partie intégrante de la nature. Quand on parle de l'environnement, c'est un non-sens, en fait. C'est quoi l'environnement? C'est ce qui est à l'intérieur de ton être, mais en fait, tu fais partie de l'environnement aussi. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on invite, c'est cette cette espèce de prise de conscience qu'on essaye d'éveiller chez nos sympathisants, c'est de dire oui, en fait, on peut être vertueux, et ça commence par la semence, parce que la semence, c'est la base de tout, en fait.
La semence, mais aussi le sol.
Oui, oui, totalement. En fait, il y a deux, trois bases. Évidemment, une semence aussi fertile soit-elle, si c'est un sol mort dans lequel elle va être plantée, c'est un embryon de vie qui est voué à mourir de toute manière ou à ne juste pas vivre.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la condition des sols aujourd'hui, nous éveiller là-dessus, nous dire ce qui est en train de se passer dans nos campagnes?
Oui, alors ça, c'est... Tu me demandes d'être positif, mais tu me lances sur des sujets déprimants toutes les deux secondes. Non, c'est sûr que c'est un de nos principales, enfin c'est le principal problème évidemment, parce que si c'est assez simple de recréer de la biodiversité alimentaire à base de variétés, parce que la nature elle est très joueuse et elle est abondante et proliférante, et du coup créer des nouvelles variétés ça va très très vite finalement, et créer des variétés adaptées ça va très très vite, c'est pas le cas du sol clairement, et le sol c'est très très lent à se régénérer, la couche humique et tout ça, c'est des complexes hyper complexes justement, avec toute une microfaune, une microflore, des bactéries, tout un tas de choses qu'on arrive à tuer vraiment relativement très très vite, parce que on voit, j'ai toujours un exemple assez flagrant aux États-Unis où j'étais allé tourner pour le film sur l'apiculture que j'ai fait il y a quelques années. On voyait des églises dans les campagnes monter sur des monticules de 2 mètres de haut. On dit c'est bizarre, ils ont fait un monticule pour mettre l'église dessus et tout ça. Et pas du tout, en fait, quand ils ont construit l'église, c'était à plat. C'est l'agriculture, en fait, en 70 ans, qui a érodé 2 mètres de sol. Et du coup, évidemment, il laboure pas l'église, donc elle reste sur son sol et pendant ce temps, ça s'érode. Il faut 150 ans, je crois, pour refaire quelques centimètres. C'est 50 ans pour 2 centimètres, je crois, de couche humique sur le sol, en laissant la nature faire, on va dire, dans un contexte assez normal. Donc pour te dire la lenteur pour recréer ces 2 mètres de sol qui ont été érodés par une agriculture industrielle. À l'heure actuelle, dans mon TEDx, je parlais de 800 ou 900 tonnes de sol érodé à la seconde sur la planète, et je crois qu'en fait j'ai revu mes chiffres, et malheureusement à la hausse, la dernière fois que j'ai regardé, je sais plus le site exactement, je dois avoir les sources quelque part, c'est 1200 tonnes. En fait, quand on confond toutes les agricultures, ce chiffre il va en montant tous les ans. Donc mes 800 tonnes étaient sur un texte de Dominique, en fait, que j'avais pris, c'était Planète Terre, Planète Désert, je crois, sur son site, et en fait c'était il y a 10 ans, et maintenant c'est passé de 800 à 1200, un truc comme ça. Donc chaque seconde, donc tu comptes à peu près depuis combien de temps on parle, chaque seconde c'est 1200 tonnes de sol qui sont érodées dans les eaux, dans l'air, avec les tempêtes de sable, etc., qu'il y a dans toutes les zones agricoles. Parce qu'en France, on a une agriculture d'importation, donc on ne se rend pas compte de ce qu'on consomme et de l'agriculture qui va derrière. Toi, tu t'en rends compte parce que tu voyages beaucoup, mais quand on va en Asie, en Afrique, en Amérique latine, c'est un cauchemar de désertification. Aux États-Unis, quand tu visites un état comme l'Iowa, t'es sur la lune, quoi. C'est hallucinant. Des parcelles de 2000 hectares d'un tenant avec des tracteurs dirigés au satellite, avec des semoirs de 54 ans qui passent dans ces trucs, et des nuages de poussière derrière qui montent à 30 mètres. Voilà. Mais en France, on n'est pas mieux. Regarde dans le Gard. Tous les ans, dans le Gard, ils ont les bagnoles qui flottent dans les villages. Et pourquoi ? Mais c'est parce qu'ils ont tué les sols. Ils ont tué les sols, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus de vers de terre. Les vers de terre, tu le sais, c'est la première biomasse animale de la planète. Avec 5600 espèces, je crois, un truc comme ça. Un vers de terre, en un an, il creuse 5 km de galerie. Donc tout ça, c'est de l'infiltration de nutriments, d'eau, l'échange entre les minéraux de sous-terre qui remontent à la surface, toute la vie du sol, quoi. Tout ça, il vous dit tout. L'eau, elle s'infiltre plus, elle ruisselle, etc. Et on va dire, c'est le changement climatique. Ben non, c'est pas le changement climatique. C'est les 140 000 tonnes de matière active qu'on a diffusées cette année. Ça n'a rien à voir.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Il y a quand même des actions citoyennes qui sont en train d'émerger un peu partout sur nos territoires. Est-ce que toi, en tant qu'association, tu as l'impression que les jeunes ou les moins jeunes, enfin, qu'il y a un engouement de la population vers des pratiques plus respectueuses des sols et plus respectueuses du vivant?
Oui, il y a clairement, parce que pour deux raisons. Déjà parce que, enfin, le point qui est pour moi très positif, c'est qu'il y a une nouvelle génération en fait qui est en train de pas suivre la première et de se mobiliser un peu plus, de se réveiller un peu plus en fait sur notre mode de vie en règle générale, en fait, pas forcément sur l'agriculture, mais il y a aussi un point un peu moins positif, c'est que Bah, les gens en ont marre de mourir de cancer, quoi, et qu'on a compris qu'en fait, il n'y avait pas que les clopes et l'alcool qui filaient le cancer, mais c'était surtout l'alimentation. Et donc, clairement, là, on touche à deux choses, en fait, à la santé et au goût aussi. Au goût. Parce que, surtout en France, on a une culture assez culinaire, quoi. Et bon, manger les tomates du supermarché dégueulasse, ça va pendant une trentaine d'années, mais maintenant, on a envie de passer à autre chose. Donc, on voit bien que, de toute façon, très clairement, il y a de plus en plus de chefs, par exemple, qui se sensibilisent aux variétés libres parce qu'elles ont du goût, des nutriments, etc. Donc, ça, c'est un point positif parce que, clairement, en fait, il y a... Ouais, je pense que petit à petit, on est en train de se réapproprier, on essaye en tout cas de se réapproprier notre santé et la santé de la planète et notre nid en fait, parce que clairement, on est la seule espèce à détruire notre nid sans y prendre vraiment garde, quoi. Et donc là, peut-être que c'est en train de changer un peu, en tout cas j'espère. J'espère que les nouvelles générations en tout cas sont plus promptes à voir la réalité, parce que nos parents et nos grands-parents... Ouais, c'était quand même la politique de l'autruche, hein. Faut quand même dire ce qui est, quoi.
Variété libre, je crois que le slogan de Cocopelli, c'est « Libérons les semences », c'est ça, non ?
Pour la liberté de la semence et de l'humus.
Reviens sur ce thème de liberté, pourquoi libérer ? Aujourd'hui, elles sont prisonnières de quelque chose ?
C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, elles sont clairement captives. Elles sont clairement captives de l'industrie. Pour revenir un peu après-guerre, si on veut reparler de cette période-là, parce qu'en fait, c'est là que tout s'est joué. C'est dans les années 40 et 60, en fait, quand le GNIS a été créé. Le GNIS a été créé sous Pétain, le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers, a été créé justement pour faire la pluie et le beau temps sur le monde agricole, en commençant par les semences. Et en fait, leur première mesure avec l'UPOV, et c'est la France qui a été à la base de l'UPOV, donc l'UPOV c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. Quand on dit obtention, généralement on comprend qu'il y a un brevet derrière, donc à partir du moment où il y a un brevet, il y a captivité, quand on parle du vivant évidemment. Donc c'est à cette époque-là, ça faisait partie de leur solution justement pour éradiquer cette libre reproduction insolente de la nature. Ça a été de les captiver, en fait, de les mettre sous clé très, très, très clairement, quoi. Et donc libérer les semences vient par opposition à la captivité des semences qui a été mise en place à cette époque-là et qui s'est mise en place petit à petit au moyen d'un catalogue, par exemple. Donc encore à l'heure actuelle, donc avant c'était le catalogue national, c'est la France, encore la France Cocorico qui a imposé ses règles à l'Europe. Toute variété qui peut être distribuée doit être inscrite dans un catalogue et pour pouvoir être inscrite, doit répondre à des critères d'homogénéité, de stabilité, DHS, distinction, homogénéité, stabilité génétique. Donc très clairement, il n'y a que les hybrides et les OGM qui peuvent répondre à ces critères parce qu'en fait, la nature est par nature instable. Donc voilà, ils ont trouvé tout un tas de combines juridiques, botaniques pour tout verrouiller. Quand ils pouvaient pas faire des hybrides F1 dégénérescents, ils créent des COV, par exemple des certificats d'obtention végétale, comme c'est le cas sur le blé. Le blé, ils n'arrivent pas à verrouiller botaniquement. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à imposer cette stérilité entre guillemets ou cette non-reproductibilité au blé. Donc ils ont décidé qu'ils allaient poser des certificats sur tel ou tel critère génétique. Et donc tel obtenteur peut dire, bah voilà, moi j'ai sélectionné cette variété de blé dans telle direction et je mets un brevet entre guillemets sur... voilà. Et donc toi tu as le droit de reproduire cette variété, par contre tu vas payer des royalties pour le faire.
C'est-à-dire
que si tu gardes un quintaux de blé pour ressemer ton hectare ou enfin tes hectares de semences, tu vas payer à l'obtenteur le droit d'utiliser ces semences.
Donc au semencier.
Mais quand on y réfléchit bien, ça fait du sens, hein. On est d'accord. Bah oui, parce que en fait, le problème c'est de les laisser faire. À un moment, comme disait Coluche, s'il y a personne pour acheter, ils vendent pas. Donc le problème, que je me fasse bien comprendre, en fait, je défends pas les semenciers évidemment, mais eux, ils ont mis une carrière de chercheurs, de généticiens, de tout ce que tu veux, pour développer telle ou telle variété qui va aller avec tel ou tel nouveau pesticide, etc. Ils vont pas te laisser l'utiliser gratuitement. Évidemment que non. C'est comme si tu allais demander à Microsoft, écoute, tu me lâches ta licence PC parce que je la veux gratuitement. Bah non, si tu la veux gratuitement, tu vas chez Linux ou chez n'importe quel logiciel libre, tu vois. Mais en tout cas, vouloir utiliser ces variétés librement, c'est un faux combat. c'est un faux combat qui a malheureusement été mené pendant plusieurs années. Mais maintenant, je pense que tout le monde a compris que c'était pas ça le combat. C'est pas essayer d'utiliser les variétés de l'industrie gratuitement, c'est laisser l'industrie de côté et développer des variétés qui soient modernes, qui répondent aux besoins en fait de l'agriculture, des maraîchers, des jardiniers, etc., mais qui soient libres. C'est un combat qu'on mène à Cocopelli et qu'on a vraiment du mal en fait à mener parce qu'en fait, ça fait un paquet d'années que le monde écolo tourne autour de chimères sémantiques, quoi. En balançant de la variété ancienne et du machin et du bidule, en fait, avec tout un tas d'idéals, en fait, mais qui sont pas représentatifs vraiment de la réalité. Le terme variété ancienne, chez Cocopelli, on essaye de jamais l'utiliser, à moins que ce soit vraiment une variété ancienne. Et si c'est une variété ancienne, on a défini une date. Mais sinon, c'est un faux terme. Et c'est un faux terme, mais qui est antiproductif, hein. Contre-productif au possible, parce qu'en fait, maintenant, quand on présente une nouvelle variété, les gens ils vont dire « Ah bah Cocopelli, regardez, ils vendent des hybrides ou ils vendent des variétés modernes, etc. » Et c'est vrai, c'est une variété moderne, mais qui a été sélectionnée pour le domaine public, qui répond à tout un tas de critères assez géniaux, comme la productivité ou le goût, etc. Tu vois, là, on a lancé une centaine d'études l'année dernière sur des acides aminés, sur tous les acides aminés libres, sur une centaine d'espèces différentes, pour mettre en valeur, justement, en fait, la qualité nutritionnelle des légumes libres, qu'ils soient anciens ou non, ça n'a rien à voir.
Pour bien comprendre, donc il existe un catalogue dans lequel sont inscrites différentes variétés et toutes celles qui ne sont pas dans le catalogue.
Alors effectivement, voilà, toutes celles qui sont non inscrites au catalogue sont de fait illégales, tout simplement. Et c'est pour ça que Cocopelli a eu de nombreux procès au cours des 10 ou 15 dernières années. C'est tout simplement pour commercialisation de semences illégales. Ça va, c'est aussi simple que ça. Donc on nous a accusé de tout, hein, de tromper le consommateur, voire de mettre en danger les gens avec des semences parce qu'elles étaient non inscrites au catalogue. Donc si on était cynique, on pleurerait, mais vu qu'on aime bien rigoler, ça nous fait rigoler de voir des industriels qui empoisonnent la totalité de la biosphère avec des trucs tellement cancérigènes qu'on n'ose même pas en parler. Dire que les semences de Cocopelli mettent en danger le consommateur, c'est à se rouler par terre, enfin, c'est du délire.
Mais ça veut dire que quand on vient ici, toutes les semences qu'on peut voir sont des semences illégales.
Bon, en fait, elles l'étaient jusqu'à maintenant. Enfin, c'est en train de changer. Voilà, il semblerait qu'il y ait quand même une volonté de laisser les maraîchers bio utiliser des variétés non inscrites, mais sous condition de les déclarer quand même. Enfin, voilà, il y a tout un...
Et les reproduire.
Ouais, ils peuvent les reproduire. Ils peuvent même vendre les graines, en fait. Mais c'est une dérogation. Donc ça, c'est pour 2021. Et c'est que pour les agriculteurs bio.
Parce qu'il y avait quand même cette histoire de bourse aux graines qui avait été mise en place pour contourner la législation, ne pas vendre des semences, mais les échanger.
C'est vieux, ça. Oui, c'est vrai. Heureusement que tu es là pour poser des questions. Hein. Parce que je savais des trucs. C'est vrai qu'en fait, bon, à la base, Cocopelli, c'est une association qui a été créée pour sauver une collection de graines qui appartenait à une SARL qui s'appelait Terre de Semences, donc qui était la SARL de Dominique. Et qui a tout simplement mis la clé sous la porte sous les pressions du pouvoir public, etc. Et avec perte et fracas. Et en fait, pour sauver la collection, il a créé l'association Cocopelli. Il a récupéré tout ce qu'il pouvait, en gros. Et il a réinjecté ça dans l'association Cocopelli. À cette époque-là, pour contourner la loi, effectivement, t'adhérais à Cocopelli. En échange de ton adhésion, t'avais accès, en mode bourse aux graines, à telle quantité de variétés. Mais en fait, au bout de ça, a tenu, je crois, même pas un an, ça, parce qu'en gestion, c'est juste pas gérable, tu vois. Enfin, voilà. Déjà, c'est pas gérable, et en plus, Dominique a dit, mais non, en fait, là, on est en train de se coucher, quoi, on est en train d'essayer de contourner la loi, et en fait, on n'a pas envie de se mettre dans cette position-là, on n'a pas envie de se planquer, on n'a pas envie d'être dans des niches, donc on s'impose, en fait. Donc on dit, non, maintenant, on commercialise. Ça veut dire que l'association Cocopelli vend sur son site internet, sur les foires, etc., en toute illégalité des graines. Et donc après, on a eu la kyrielle de procès, évidemment, qui nous a fait connaître, en fait. Mais du coup, oui, la volonté, c'était vraiment de ne pas se cacher, en fait. De ne pas se cacher, je pense que vraiment... Donc maintenant, c'est un combat gagné, hein, quasiment. On est d'accord, parce qu'on voit que Cocopelli a fait jurisprudence, en fait, sur tout un tas de procès, sur tout un tas de dossiers. On a ouvert des brèches, en fait, dans la législation. On a aussi sécurisé les gens sur le fait de dire, parce que les maraîchers avaient peur de cultiver ou de refaire des graines. Donc, il y avait des dérogations. Alors, ils allaient acheter des hybrides chez les industriels pour produire de l'agriculture bio. Ça fait en quoi sens ? Enfin, encore à l'heure actuelle, on est à 90% d'hybrides F1 dans l'agriculture bio. C'est du délire, quoi. Et donc, du coup, on voit quand même que là, ces dernières années, c'est un vrai tunnel. Tout le monde s'engouffre, en fait. Et des semenciers qui vendent des semences illégales, entre guillemets, t'en trouves à la dizaine sur Internet, il s'en s'ouvre des sites Internet tous les deux jours.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Parle-moi de la semence, qu'est-ce que c'est qu'une semence? Quelle est ta définition de la semence?
En fait, reproduire ces semences, reproduire les variétés, etc., il n'y a même pas un siècle de ça. Ça faisait partie de la vie normale, on n'en parlait même pas vraiment en fait. Ça faisait partie de la vie normale d'une ferme. Garder la meilleure partie de la récolte pour la ressemer l'année d'après. Et en fait, jusque-là, et pendant 45 000 ans, l'homme, il a su tirer profit, entre guillemets, même si j'aime pas le mot profit, mais enfin, en tout cas, tirer avantage de ce que lui offrait la nature pour mettre en place une agriculture, les civilisations, etc. Et en fait, la nature, ben, si ça fonctionne, c'est que la nature, elle est d'une générosité complètement incroyable et d'une abondance complètement incroyable. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, qu'on nous a vraiment inculqué qu'on ne pouvait pas produire sans détruire. Et en fait, non, on peut produire dans l'abondance. En fait, on peut vraiment produire dans l'abondance. Et l'exemple de la laitue, c'est ça. C'est une laitue, tu la laisses monter à graines. Selon les variétés, elle va t'offrir entre 8000 et 12000 graines pour une laitue. Donc, en fait, il n'y a que la nature pour arriver à avoir un tel potentiel de reproductibilité. 1 à 12 000 en une saison. Et on va prendre 8 000 parce que c'est le chiffre le plus bas, et 1 à 8 000, et donc j'ai plus tous les chiffres de mon TEDx en tête, mais en 3 ans, si tu prends les espacements assez classiques de la laitue, en 3 ans, tu recouvres tous les continents de la planète de laitue. Donc, je crois qu'en 3 ans, tu as 512 milliards de graines de laitue. Là, c'est la laitue, il y a d'autres choses qui se reproduisent moins vite, où il y a moins de graines par plant, il y en a où c'est encore infiniment plus. Tu prends la marante ou le tabac, ça a un potentiel de reproductibilité, c'est juste inimaginable le nombre de graines que peut faire juste un plant de tabac. Donc en fait, on n'a aucune raison, mais vraiment, il y a pas, tu ne peux pas me sortir une seule raison valable pour qu'on ne reproduise pas nos semences, pour que les agriculteurs, les maraîchers ou les jardiniers ne reproduisent pas leurs semences. C'est vraiment culturel, c'est vraiment qu'on nous a inculqué le fait de ne plus reproduire nos semences. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, c'est facile ça. Même si elles se croisent entre elles, au pire, où est le problème? Tant que, tu vois, elles ne vont pas dégénérer. Mais ça, c'est encore des croyances, c'est assez fou, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez Cocopelli, qui nous achètent des graines en disant, mais bon, si je ne viens pas vous racheter des graines, au moins tous les 2-3 ans, ma variété, elle va dégénérer. Et nous, on fait comment? On la reproduit bien, nous, la variété, on n'a pas des labos ni rien, c'est des agriculteurs, c'est des producteurs, des multiplicateurs qui reproduisent la variété dans leur champ. Alors certes, c'est des professionnels qui vont isoler les cultures, qui vont respecter tout un tas de critères, etc., pour pouvoir avoir une variété stable et pure, entre guillemets, pour que la description sur le sachet corresponde à la variété. Mais toi, en tant que jardinier, bah, tu t'en fous. Si tu as envie de garder ta variété pure, tu fais ce qu'il faut. Si tu n'as pas envie qu'elle s'hybride avec les variétés du reste de ton jardin, et ben allons-y, quoi. La nature, elle est joueuse et tu vas avoir sûrement des variétés qui vont être encore plus adaptées à ton terrain, qui vont te sortir des goûts différents, etc. On invite vraiment à ça, à jouer avec la nature, à produire, à multiplier, à hybrider de façon naturelle, évidemment. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire. On voit que tous les maraîchers, tous les jardiniers qui le font, ou tous les agriculteurs, mais ils multiplient les rendements, ils font des aliments qui sont bien plus nutritifs. Donc en fait, on a besoin de produire moins, d'ailleurs, hein, on est d'accord, hein, quand on produit plus de nutriments. Parce que ça, c'est encore une chimère de l'industrie. Hein. Ils nous sortent des tonnages à l'hectare en permanence. Avec les nouvelles variétés, ils vont dire telle tomate, elle va vous faire tant de tonnes à l'hectare. Faire tant de tonnes à l'hectare de flotte et de pesticides, en vrai. Mais si tu la fais sécher et que tu pèses ce qui reste de fibres, de matière sèche, de d'acides aminés, de vitamines, etc., c'est vide, il n'y a rien. N'importe quelle mamie avec sa variété ancienne ou sa variété libre dans son jardin, elle explose de 15, 20, 30 ou 50 fois les rendements de l'agro-industrie en nutriments. Mais c'est bien les nutriments qui nous nourrissent, c'est pas du vide. Tu vois? Et du coup, en fait, c'est pour ça que l'agroécologie, la permaculture, etc., offrent en fait bien plus de productivité, mais bien plus, c'est incomparable. Incomparable. Et en plus, dans des cercles vertueux. Ça veut dire que dans 500 ans, on peut continuer. Alors que là, avec l'agriculture à l'heure actuelle, allez, tu veux pas qu'on soit pessimiste, alors on va pas être pessimiste, mais en gros, 2050, il n'y a plus rien, il faut être réaliste.
De quoi rêves-tu pour demain? C'est pour être optimiste.
Ouais, mais si je suis réaliste, après tu vas dire que c'est un cauchemar, mon rêve. Non. Mon rêve, c'est clairement qu'on arrive à coévoluer, en fait, tout simplement avec la nature. Je pense que ça se résume à... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est un rêve qui est réalisable, en fait. On a tous les outils. L'être humain, il est génial. Il y a deux, trois petites mesures assez simples. Hein. La télé, la fenêtre, déjà. qui font que, en fait, tu peux écarquiller les pupilles et puis d'un coup te rendre compte qu'il y a des arbres autour de toi et qu'en fait, ils pulsent une énergie et qu'il se passe quelque chose, quoi. Tout simplement. Et déjà, rien que ça, ce serait le début d'un rêve qui se réalise, que les êtres humains voient qu'en fait, autour d'eux, il y a des arbres, quoi. Tout simplement.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.